Histoire de la Réformation du XVIe siècle, 1411, troisième période, commission mixte, les trois points, dissimulation romaine, Philippe rappelé, abus, concession, on accorde les évêques, le pape, danger des concessions, opposition des laïcs, opposition de Luther, la parole au-dessus de l'Église, aveuglement de Mélenchon, le protestantisme se perd, pas de concession, nouvelle commission, décision du Landgrave, les deux fantômes, les trois doctrines, la grande antithèse, rupture des conférences, demande de congé, promesse d'un concile, sommation de Charles, refus des protestants, menace de Charles, altercation et tumulte, Rome cède et les protestants résistent, appel de Luther. La diète entra alors dans sa troisième période. Et comme au temps des tâtonnements avait succédé celui des menaces, maintenant, au temps des menaces, succéda celui des accommodements. De nouveaux et plus redoutables dangers devaient s'y rencontrer pour la réforme. Rome, voyant le glaive arraché de ses mains, saisissait le filet et, enlaçant ses adversaires de liens d'amitié et de cordons d'humanité, allait s'efforcer de les attirer doucement dans l'abîme. Le 16 août à 8 heures du matin, on réunit une commission mixte qui comptait de chaque côté 2 princes, 2 jurisconsultes et 3 théologiens. Il y avait de la part du parti romain le duc Henri de Brunswick et l'évêque d'Augsbourg, les chanceliers de Bâle et de Cologne, Eck, Coclet et Wimpina, et, de la part des protestants, le margrave Georges de Brandebourg, le prince électoral de Saxe, les chanceliers Bruck et Heller, Mélenchon, Brenz et Schneff. On convint de prendre pour base la confession des États évangéliques et l'on se mit à la lire article par article. Les théologiens romains montrèrent une condescendance inattendue. Sur 21 articles, il n'y en eut que 6 ou 7 auxquels ils firent objection. Le péché originel arrêta quelque temps. Enfin, l'on s'entendit. Les protestants admirent que le baptême ôtait la culpe du péché. Et les romains accordèrent qu'ils n'ôtaient pas la convoitise. Quant à l'Église, on convint qu'elle renfermait des hommes sanctifiés et des pécheurs, on s'accorda de même sur la confession. Les protestants rejetaient surtout comme impossible l'énumération de tous les péchés prescrits par Rome. Le docteur Eck concéda ce point. Il ne restait que 3 doctrines sur lesquelles on différait. La première était celle de la pénitence. Les docteurs romains enseignaient qu'elle avait 3 parties. La contrition, la confession et la satisfaction. Les protestants rejetaient la dernière, et les romains, sentant bien qu'avec la satisfaction tomberaient les indulgences, le purgatoire et d'autres de leurs dogmes et de leurs profits, la maintenaient avec force. Nous accordons, disaient-ils, que les pénitences imposées par les prêtres ne procurent pas la rémission de la culpe du péché, mais nous maintenons qu'elles sont nécessaires pour obtenir la rémission de la peine. Le second point controversé fut l'invocation des saints, et le troisième, qui était le principal, fut la justification par la foi. Il était de la plus haute importance pour les Romains de maintenir l'influence méritoire des œuvres. Tout leur système, au fond, reposait là-dessus. Eck déclara donc finalement la guerre à cette assertion que la foi seule justifie. Ce mot seul, disait-il, nous ne pouvons le tolérer. Il enfante les scandales et rend les gens grossiers et impies. Renvoyons la savate au savetier. C'était un calembour du docteur. Le mot qui signifie seul en latin, signifiant semelle en allemand. Mais les protestants n'entendaient pas de cette oreille. On le vit bien lorsqu'ils se posèrent entre eux la question « Voulons-nous maintenir que la foi seule nous justifie gratuitement ?»« sans doute, s'écria l'un d'eux, gratuitement et inutilement. » On alla même chercher d'étranges autorités. Platon, parlant de Dieu, dit-on, déclare que ce n'est pas par des œuvres extérieures mais par la vertu qu'on l'adore. Et chacun connaît ces vers de Caton. Si Dieu n'est qu'un esprit, comme dit le poète, c'est par un esprit pur qu'il le faut adorer. Sans doute, reprenaient les théologiens romains, ce n'est que d'œuvres faites avec la grâce que nous parlons. Mais nous disons qu'il y a dans de telles œuvres quelque chose de méritoire. Les protestants déclarèrent ne pouvoir l'accorder. On s'était rapproché au-delà de toute espérance. Les théologiens de Rome, comprenant fort bien leur position, s'étaient proposés de paraître d'accord plutôt que de l'être. Tout le monde savait, par exemple, que les protestants rejetaient la transsubstantiation. Mais l'article de la Confession sur ce point pouvant être pris dans le sens romain, les papistes l'avaient admis. Leur triomphe n'était que renvoyé. Les expressions générales dont on se servait sur tous les points controversés permettraient plus tard de donner à la Confession une interprétation romaine. L'autorité ecclésiastique la déclarerait seule véritable, et Rome, grâce à quelques moments de dissimulation, remonterait ainsi sur le trône. N'a-t-on pas vu de nos jours les 39 articles de l'Église anglicane interprétés dans le sens du Concile de Trente? Il est des causes auxquelles le mensonge ne fait jamais défaut. Ce complot, profondément conçu, fut habilement exécuté. On était dans les meilleurs termes et la concorde semblait rétablie. Une seule inquiétude troublait cette douce illusion. La pensée du Landgrave. Ignorant que nous sommes presque d'accord, cet écervelé, disait-on, assemble sans doute déjà son armée. Il faut le ramener et le rendre témoin de notre bonne intelligence. Le 18 août, au matin, l'un des membres de la commission, le duc Henri de Brunswick, accompagné d'un conseiller de l'empereur, partit pour s'acquitter de cette difficile mission. Le duc Georges de Saxe le remplaça comme arbitre. Ce fut alors que de la première partie de la confession, l'on passa à la seconde, des doctrines aux abus. Ici, les théologiens romains ne pouvaient céder si facilement, car s'ils paraissaient s'entendre avec les protestants, c'en était fait de l'honneur et de la puissance de la hiérarchie. Aussi, était-ce pour cette partie du combat qu'ils avaient réservé leurs ruses et leurs forces. Ils commencèrent par se rapprocher les protestants autant qu'ils le purent, car plus ils accordaient, plus ils pouvaient attirer à eux la réforme et l'éteindre en l'étouffant. Nous pensons, dirent-ils, qu'avec la permission de sa sainteté et l'approbation de sa majesté, on pourra jusqu'au prochain concile permettre la communion sous les deux espèces, partout où elle est déjà établie. Seulement, vos ministres devront prêcher à Pâques que cela n'est pas d'ordre divin et que le Christ est tout entier sous chaque espèce. De plus, continuèrent-ils, quant aux prêtres mariés, voulant épargner les pauvres femmes qu'ils ont séduites, pourvoir à l'entretien de leurs enfants innocents et prévenir toutes sortes de scandales, nous les tolérerons jusqu'au prochain concile. Et l'on verra alors s'il ne serait pas bon d'arrêter que les hommes mariés peuvent être admis aux ordres sacrés, comme cela a eu lieu dans la primitive Église pendant quelques siècles. Enfin, nous reconnaissons que le sacrifice de la messe est un mystère, une représentation, un sacrifice de commémoration, un souvenir des souffrances et de la mort du Christ accomplie sur la croix. C'était beaucoup cédé. Mais le tour des protestants devait venir, car si Rome paraissait donner, ce n'était que pour prendre. La grande question était l'Église, son entretien, son gouvernement. Qui y pourvoira? On ne voyait que deux moyens, les princes ou les évêques. Si l'on craignait les évêques, il fallait se décider pour les princes. Si l'on craignait les princes, il fallait se décider pour les évêques. On était alors trop loin de l'état normal pour découvrir une troisième solution et s'apercevoir que l'Église devait être entretenue par l'Église elle-même, par le peuple chrétien. Les princes séculiers feront défaut à la longue au gouvernement de l'Église, dirent les théologiens saxons, dans le préavis qu'ils présentèrent le 18 août. Ils ne sont pas aptes à s'en acquitter, et d'ailleurs, cela leur coûterait trop cher. Les évêques, au contraire, ont des biens destinés à pourvoir à cette charge. Ainsi, l'incapacité présumée de l'État et la crainte qu'on avait de son indifférence jetaient les protestants dans les bras de la hiérarchie. On proposa donc de rendre aux évêques leur juridiction, le maintien de la discipline et la surveillance des prêtres, pourvu qu'ils ne persécutassent pas la doctrine évangélique et n'accablassent pas les pasteurs de vœux et de fardeaux injustes. Dès le commencement de l'Église, ajoutait-on, les évêques ont été placés au-dessus des prêtres, et il est dangereux devant les seigneurs de changer l'ordre des gouvernements. Cet argument, on le voit, est fondé non sur la Bible, mais sur l'histoire ecclésiastique. Les théologiens protestants allèrent même plus loin, et faisant un dernier pas qui semblait décisif, ils consentirent à reconnaître le pape comme étant, mais de droit humain, suprême évêque de la chrétienté. Quand même le pape est un antéchrist, disait-il, nous pouvons être sous son gouvernement comme les juifs furent sous Pharaon, et plus tard sous Caïphe. Il faut avouer que ces deux comparaisons n'étaient pas flatteuses pour le pape. Seulement, ajoutaient les docteurs, que la sainte doctrine nous soit pleinement assurée. Le chancelier Bruck paraît ici avoir été seul dans la vérité. Il écrivit en marge d'une main ferme « Je doute que nous puissions reconnaître le pape, puisque nous disons qu'il est l'antéchrist, et puisque c'est de droit divin qu'il s'arroge la primauté. » Enfin, les théologiens protestants consentaient à s'entendre avec Rome quant aux cérémonies indifférentes, aux jeûnes, à la forme du culte, et les lecteurs s'engageaient à mettre sous séquestre les biens ecclésiastiques déjà sécularisés jusqu'à décision du prochain concile. Jamais l'esprit conservateur du luthéranisme ne s'était si clairement manifesté. Nous avons promis à nos adversaires de leur céder certains points de gouvernement ecclésiastique que l'on peut accorder sans blesser la conscience, écrivait Mélenchon. Mais il commençait à devenir fort douteux que les concessions ecclésiastiques n'entraînassent pas des concessions dogmatiques. La réforme allait à la dérive. Encore quelques pas et son heure avait sonné. Déjà, la désunion, le trouble, l'épouvante commençaient à se mettre dans ses rangs. Mélenchon était devenu plus puéril qu'un enfant, disait l'un de ses amis. Et pourtant, il était tellement excité que le chancelier de Lunebourg, ayant fait quelques objections à ses concessions inouïes, le petit maître S. Hart leva fièrement la tête et dit d'un ton aigre et cassant « Celui qui ose dire que les moyens indiqués ne sont pas chrétiens est un menteur et un scélérat. » Sur quoi le chancelier lui rendit aussitôt la monnaie de sa pièce. Ces propos ne saurait néanmoins contredire le renom de douceur de Mélenchon. Après tant d'efforts inutiles, il se trouvait épuisé, aigri. Ces paroles blessèrent d'autant plus qu'on les eut moins attendues de sa bouche. D'autres étaient abattus comme lui. Brenz se montrait inhabile, rude et grossier. Le chancelier Heller avait égaré le pieux margrave de Brandebourg et changé le courage de ce prince en pusillanimité. Il ne restait à l'électeur d'autre appui humain que son chancelier Bruck. Encore cet homme inébranlable commençait-il à s'effrayer de son isolement. Mais il n'était pas seul. Les plus vives réclamations se faisaient entendre au dehors. S'il est vrai que vous fassiez de telles concessions, disaient aux théologiens saxons leurs amis à l'armée, c'en est fait de la liberté chrétienne. Qu'est-ce que votre prétendue concorde? Un épais nuage que vous élevez dans les airs pour éclipser le soleil qui commençait à éclairer l'Église. Jamais le peuple chrétien n'acceptera des conditions aussi contraires à la parole de Dieu. Et tout ce que vous y gagnerez, ce sera de fournir aux ennemis de l'Évangile un prétexte spécieux pour égorger ceux qui lui demeureront fidèles. Parmi les laïcs, ces convictions étaient générales. « Mieux vaut mourir avec Jésus-Christ, disait tout Augsbourg, que de conquérir sans lui la faveur du monde entier. » Nul ne ressentit tant d'effroi que Luther au moment où il vit l'édifice glorieux que Dieu avait élevé par ses mains sur le point de s'écrouler dans celle de Mélenchon. Le jour que cette nouvelle lui parvint, il écrivit 5 lettres à l'électeur, à Mélenchon, à Spalatin, à Genas et à Brenz, toutes également remplies de courage et de foi. « J'apprends, disait-il, que vous avez commencé une œuvre merveilleuse, savoir de mettre Luther et le pape d'accord. Mais le pape ne veut pas, et Luther s'excuse. Et si, en dépit d'eux, vous venez à bout de cette affaire, alors, suivant votre exemple, je mettrai d'accord Christ et Bélial. Le monde, je le sais, est plein de criailleurs qui obscurcissent la doctrine de la justification par la foi et de fanatiques qui la persécutent. Ne vous en étonnez pas, mais continuez à la défendre avec courage, car elle est le talon de la semence de la femme pour écraser la tête du serpent. Prenez garde aussi à la juridiction des évêques, de peur que nous ne devions recommencer bientôt un combat plus terrible que le premier. Ils prendront nos concessions largement, très largement, toujours plus largement. Et ils nous donneront les leurs étroitement, très étroitement, et toujours plus étroitement. Toutes ces négociations sont impossibles, à moins que le pape ne renonce à la papauté. Le beau motif vraiment que nous donnent nos adversaires. Ils ne peuvent, disent-ils, contenir leur sujet si nous ne publions pas partout qu'ils ont la vérité pour eux. Comme si Dieu ne faisait enseigner sa parole que pour que nos ennemis puissent, à leur plaisir, tyranniser leur peuple. Ils crient que nous condamnons toute l'Église. Non, nous ne la condamnons pas. Mais eux, ils condamnent toute la parole de Dieu, et la parole de Dieu est plus que l'Église. Cette déclaration importante du réformateur décide la controverse entre les chrétiens évangéliques et la papauté. Malheureusement, on a vu souvent des protestants revenir sur ce point fondamental, à l'erreur de Rome, et mettre l'Église visible au-dessus de la parole de Dieu. « Je vous écris à cette heure, continue Luther, de croire avec tous les nôtres, et cela par obéissance envers Jésus-Christ, que Campeggi est un insigne démon. Je ne puis dire de quelle indignation ces conditions qu'on vous propose me remplissent. Le plan de Campeggi et du pape a été de nous éprouver d'abord par les menaces, puis, s'il ne réussissait pas, par la ruse. Vous avez triomphé de la première attaque et soutenu la terrible arrivée de César. Maintenant vient la seconde. Agissez avec courage et ne cédez aux adversaires que ce qui peut être prouvé avec évidence par la parole même de Dieu. Mais si, ce dont Christ nous préserve, vous ne proclamez pas tout l'Évangile, si au contraire vous renfermez cet aigle glorieux dans un sac, Luther, n'en doutez pas, Luther viendra et délivrera l'aigle avec éclat. Aussi certain que Christ vit, cela se fera. Ainsi parla Luther, mais en vain. Tout s'acheminait dans Augsbourg vers une ruine prochaine. Mélanchthon avait sur les yeux un bandeau que nul ne pouvait arracher. Il n'écoutait plus Luther et dédaignait la popularité. « Il ne convient pas, disait-il, que nous nous laissions émouvoir par les clameurs du vulgaire. Il faut penser à la paix et à la postérité. Si l'on annule la juridiction des évêques, qu'en résultera-t-il pour nos descendants? Les puissances séculières ne se soucient nullement des intérêts de la religion. D'ailleurs, trop de dissemblance dans les églises nuit à la paix. Il nous faut nous unir aux évêques de peur que l'infamie du schisme ne nous travaille à jamais. » On n'écoutait que trop Mélanchthon, et l'on travaillait avec force à rattacher au pape, par les liens de la hiérarchie, l'Église que Dieu avait merveilleusement émancipée. Le protestantisme se précipitait, les yeux fermés, dans les filets de ses ennemis. Déjà des voix graves annonçaient le retour des luthériens dans le sein de l'Église romaine. « Ils préparent leur défection et passent aux papistes, » disait Zwingle. Le politique Charles Quint faisait en sorte qu'aucune parole superbe ne vint compromettre sa victoire. Mais le clergé romain n'y tenait pas. Son orgueil, son insolence croissaient de jour en jour. « On ne pourrait croire, » disait Mélanchthon, « les airs de triomphe que les papistes se donnent. » Il y avait de quoi. L'accord avait chance de se conclure. Encore un ou deux efforts. Et alors, malheur à la réforme. Qui pouvait prévenir cette désolante ruine? Ce fut Luther, qui prononça le nom vers lequel devaient se tourner les regards. « Christ vit, » dit-il. Et celui par qui la violence de nos ennemis a été vaincue saura bien nous donner la force de surmonter la ruse. C'était en effet la seule ressource, et elle ne manqua pas à la réformation. Si la hiérarchie romaine avait voulu, sous quelques conditions fort admissibles, recevoir les protestants prêts à capituler, c'en était fait d'eux. Une fois qu'elle les eut tenus dans ses bras, elle les y aurait étouffés. Mais Dieu aveugla la papauté et sauva ainsi son Église. « Pas de concession, » avait dit le Sénat romain. Et Campeggi, fier de sa victoire, répétait « Pas de concession. » Il remuait ciel et terre pour enflammer, dans ce moment décisif, le zèle catholique de Charles. De l'empereur, il passait au prince. Le célibat, la confession, la suppression de la coupe, les messes privées, s'écriait-il, tout cela est obligatoire, il nous faut tout. C'était dire aux chrétiens évangéliques, voilà les fourches caudines, passez-y. Les protestants virent le joug et frémirent. Dieu ranima le courage des confesseurs dans leurs cœurs affaiblis. Ils levèrent la tête et rejetèrent cette capitulation humiliante. Aussitôt, la commission fut dissoute. C'était une grande délivrance, mais un nouveau danger les menaça presque aussitôt. Les chrétiens évangéliques auraient dû quitter immédiatement Augsbourg. Mais, dit l'un d'eux, Satan, déguisé en ange de lumière, aveuglait les yeux de leur entendement, ils restèrent. Tout n'était donc pas perdu pour Rome, et l'esprit de mensonge et de ruse pouvait recommencer ses attaques. On croyait à la cour que la fâcheuse issue de la commission devait être attribuée à quelque mauvaise tête, et surtout au duc Georges. On résolut donc d'en nommer une autre, composée seulement de 6 membres. D'un côté, Eck et les chanceliers de Cologne et de Bade, de l'autre, Mélanchthon et les chanceliers Bruck et Heller. Les protestants y consentirent, et tout fut remis en question. L'alarme s'accrut alors parmi les partisans les plus décidés de la Réformation. Si l'on s'expose sans cesse à de nouveaux périls, ne faudra-t-il pas enfin que l'on succombe? On frémissait à la pensée que le règne des prêtres allait être rétabli. Les députés de Nuremberg, surtout, déclaraient que jamais leur ville ne se remettrait sous ce joug détesté. Ce sont les conseils du douteux Érasme que suit Mélenchon, disait-on. Dites plutôt ceux d'Aïtophel, 2 Samuel 15, reprenaient d'autres. Quoi qu'il en soit, ajoutaient quelques-uns, si le pape avait acheté Mélenchon à prix d'argent, celui-ci n'eût jamais pu mieux faire pour lui assurer la victoire. Le Landgrave, surtout, s'indignait de ces lâchetés. Mélenchon, écrivit-il à Zwingle, marche à reculons comme une écrevisse. De Friedwald, où il s'était rendu, après s'être enfui loin de Charles Quint, Philippe de Hesse s'efforçait d'arrêter la chute du protestantisme. Quand on commence à céder, on cède toujours plus, écrivit-il à ses ministres restés à Augsbourg. Déclarez donc à mes alliés que je rejette ces conciliations perfides. Si nous sommes chrétiens, ne recherchons pas notre propre avantage, mais la consolation de tant de consciences fatiguées, affligées, pour lesquelles il n'y a plus de salut si on leur enlève la parole de Dieu. Les évêques ne sont pas de vrais évêques, car ils ne parlent pas selon les saintes Écritures. Si nous les reconnaissions, qu'arriverait-il ? Ils nous enlèveraient nos ministres, ils aboliraient l'Évangile, ils rétabliraient les anciens abus, et le dernier serait pire que le premier. Si les papistes veulent permettre la libre prédication du pur Évangile, consentons avec eux, car la vérité sera la plus forte et extirpera tout le reste. Mais sinon, non, c'est le moment non de céder, mais de demeurer ferme jusqu'à la mort. Faites échouer les combinaisons craintives de Mélenchon, et dites de ma part aux députés des villes d'être des hommes et non des femmes. Ne craignons rien, Dieu est avec nous. Mélenchon et ses amis ainsi attaqués cherchaient à se justifier. D'un côté, ils soutenaient que, si l'on maintenait la doctrine, elle renverserait finalement la hiérarchie. Mais alors, pourquoi relever celle-ci ? N'était-il pas plus que douteux qu'une doctrine ainsi affaiblie gardât encore assez de force pour ébranler la papauté? D'un autre côté, Mélenchon et les siens montraient du doigt deux fantômes devant lesquels ils reculaient épouvantés. Le premier était la guerre. Elle était, selon eux, imminente. Ce ne sont pas seulement, disaient-ils, des maux temporels sans nombre qu'elle entraînera après elle. La dévastation de l'Allemagne, les meurtres, les viols, les sacrilèges, les rapines. Mais elle enfantera des maux spirituels plus affreux encore, et ramènera inévitablement la destruction de toute religion. Le second fantôme était la domination de l'État. Mélenchon et ses amis prévoyaient la dépendance où les princes réduiraient l'Église, la sécularisation croissante de ses institutions et de ses conducteurs, la mort spirituelle qui en résulterait, et il reculait avec crainte devant un tel avenir. Les gens de bien ne pensent point que la cour doive régler le ministère dans l'Église, disait Brenz. N'avez-vous pas éprouvé vous-même, ajoutait-il ironiquement, avec quelle sagesse et quelle douceur ces rustres, c'est ainsi que j'appelle les officiers et les préfets des princes, traite les ministres de l'Église et l'Église elle-même. Plutôt 7 fois mourir. Je vois, s'écriait Mélenchon, quelle Église nous aurons si le gouvernement ecclésiastique est aboli. Je découvre dans l'avenir une tyrannie beaucoup plus intolérable que celle qui a existé jusqu'à ce jour. Puis, accablé des accusations qui pleuvaient sur lui de toutes parts, le pauvre Mélenchon s'écriait « Si c'est moi qui ai suscité cette tempête, je supplie Sa Majesté de me jeter à la mer. Comme Jonas, et de ne m'en retirer que pour me livrer à la torture et à l'échafaud. L'épiscopat romain, une fois reconnu, tout semblait facile. On accorda, dans la commission des six, la coupe aux laïcs, le mariage aux pasteurs, et l'article de l'invocation des saints parut de peu d'importance. Mais on s'arrêta devant trois doctrines que les évangéliques ne pouvaient concéder. La première était la nécessité d'une satisfaction humaine pour que la peine du péché fût remise. La seconde était l'idée de quelque chose de méritoire dans toute bonne œuvre. La troisième était l'utilité des messes privées. « Ah !» répondit vivement à Charles Quint et le légat Campeggi, « je me laisserai plutôt mettre en pièces que de rien céder quant aux messes. »« Quoi donc ?» répliquaient les hommes politiques d'accord sur toutes les grandes doctrines du salut. « Déchirerez-vous à jamais l'unité de l'Église pour trois articles si minimes ?» Que les théologiens fassent un dernier effort, et l'on verra les deux parties s'unir et Rome embrasser Wittenberg. Il n'en était pas ainsi. Sous ces trois points se trouvait caché tout un système. Du côté romain, on croyait que certaines œuvres gagnent la faveur divine, indépendamment des dispositions de celui qui les accomplit et en vertu de la volonté de l'Église. Du côté évangélique, au contraire, on avait la conviction que ces ordonnances extérieures n'étaient que des traditions humaines, que la seule œuvre qui méritait à l'homme la faveur divine, c'était l'œuvre que Dieu a accomplie par Christ sur la croix, et que le seul moyen qui mettait l'homme en possession de cette faveur, c'était la régénération et la foi que Christ crée par son esprit dans le cœur du pécheur. Les Romains, en soutenant leurs trois articles, disaient « L'Église sauve », ce qui est la doctrine essentielle de Rome. Les évangéliques, en les rejetant, disaient « Jésus-Christ seul sauve », ce qui est le christianisme même. C'est là la grande antithèse qui existait alors et qui sépare encore maintenant les deux Églises. Avec ces trois points qui mettaient les âmes dans sa dépendance, Rome se flattait à bon droit de tout regagner. Et elle montra, en insistant, qu'elle avait l'intelligence de sa position. Mais les hommes évangéliques n'étaient pas disposés à abandonner la leur. Le principe chrétien fut maintenu contre le principe ecclésiastique qui aspirait à l'engloutir. Jésus-Christ subsista en présence de l'Église, et l'on comprit dès lors que toutes les conférences étaient superflues. Le temps pressait. Il y avait 2 mois et demi que Charles Quint était à l'œuvre à Augsbourg, et son orgueil souffrait de ce que 4 ou 5 théologiens arrêtaient la marche triomphante du vainqueur de Pavie. « Quoi ? Lui disait-on. Quelques jours vous ont suffi pour abattre le roi de France et le pape, et vous ne pouvez venir à bout de ces évangéliques. » On résolut de rompre les conférences. Eck, irrité de ce que la terreur et la ruse n'avaient rien pu faire, ne sut se contenir en présence des protestants. « Ah ! S'écria-t-il au moment où l'on se séparait, pourquoi l'empereur, lors de son entrée en Allemagne, n'a-t-il pas fait une enquête générale des luthériens ? Il eut alors entendu des réponses arrogantes, vu paraître des monstres d'hérésie, et son zèle s'enflammant soudain l'eût porté à détruire toute cette faction. Mais maintenant, les douces paroles de Bruck et les concessions de Mélenchon l'empêchent de s'échauffer comme la cause le demande. Eck dit ces mots en souriant, mais il s'exprimait bien toute sa pensée. Le colloque se termina le 30 août. Les commissaires romains firent leur rapport à l'empereur. On se trouvait en présence, à 3 pas les uns des autres, sans que, d'aucun côté, il fût possible de se rapprocher de l'épaisseur même d'un cheveu. Ainsi donc, Mélenchon avait échoué, et ces énormes concessions se trouvaient inutiles. par un faux amour de la paix, il s'était acharné à une entreprise impossible. Mélenchon était au fond une âme vraiment chrétienne. Dieu le sauva de sa grande faiblesse en faisant échouer le conseil qui le conduisait à sa ruine. Rien ne pouvait être plus heureux pour la Réformation que ce manque de succès de Mélenchon. Mais aussi, rien ne pouvait être plus heureux pour lui-même. On voyait ainsi que, s'il voulait beaucoup céder, il n'allait pourtant pas jusqu'à céder Jésus-Christ, et sa défaite le justifiait aux yeux des amis de l'Évangile. L'électeur de Saxe et le margrave de Brandebourg firent aussitôt demander à Charles Quint la permission de partir. Celui-ci s'y refusa d'abord assez rudement, mais ensuite il se mit à conjurer les princes de ne pas mettre, par leur départ, de nouveaux obstacles aux arrangements que l'on espérait pouvoir prendre. Nous allons voir de quelle nature étaient ces arrangements. Les Romains redoublèrent d'efforts. Si on lâchait maintenant le fil avec lequel on tramait la ruine de la Réforme, il était perdu pour jamais. Aussi travaillait-on à en rattacher les deux bouts, et il y avait des conférences dans les jardins, dans les églises, à Saint-Maurice, à Saint-Georges, entre le duc de Brunswick et Jean-Frédéric, fils de l'électeur, le chancelier de Bade et celui de Saxe, le chancelier de Liège et Mélenchon. Mais toutes ces tentatives étaient superflues. C'était à d'autres voies qu'on allait recourir. Charles Quint avait résolu de prendre en main l'affaire et de trancher le nœud gordien que ni les docteurs ni les princes ne pouvaient dénouer. Indigné de voir ses avances méprisées et son autorité compromise, il crut que le moment était venu de tirer l'épée. Dès le 4 septembre, les membres du parti romain, qui s'efforçaient encore de gagner les protestants, soufflèrent à l'oreille de Mélenchon ces effrayantes paroles. « Nous ne savons si nous osons vous le confier, lui disait-on. Le fer est déjà dans les mains de l'empereur, et certaines gens l'exaspèrent de plus en plus. Il ne s'irrite pas facilement, mais une fois irrité, il est impossible de l'apaiser. » Charles était en mesure de se montrer exigeant et terrible. Il venait enfin d'obtenir de Rome une concession inattendue, un concile. Clément VII avait porté devant une congrégation la demande de Charles. Comment des hommes qui rejettent les anciens conciles se soumettront-ils à un nouveau, avait-on répondu. Clément n'avait lui-même aucune envie d'une telle assemblée. Sa naissance et sa conduite la lui faisaient également redouter. Cependant, ses promesses du château Saint-Ange et de Bologne rendaient impossible d'articuler un refus absolu. Il répondit donc que le remède serait pire que le mal, mais que si l'empereur, qui était bon catholique, jugeait un concile absolument nécessaire, le pape y consentirait, toutefois sous la condition expresse, que les protestants se soumettraient en attendant aux doctrines et aux rites de la Sainte Église. Puis, pour lieu de réunion, il indiquait Rome. À peine le bruit de cette concession se fut-il répandu, que la crainte d'une réformation fit frémir les courtisans romains. Les charges publiques de la papauté, toutes vénales, baissèrent aussitôt, dit un cardinal, et s'offrirent au prix le plus vil, sans pouvoir même trouver d'acheteur. La papauté était compromise, sa marchandise se détériorait, et les prix courants baissaient aussitôt à la bourse de Rome. Le mercredi 7 septembre, à 2 heures après-midi, les princes et les députés protestants ayant été introduits dans la chambre de Charles Quint, le comte palatin leur dit que l'empereur ne s'était point attendu, vu leur petit nombre, à ce qu'ils maintinssent des sectes nouvelles contre les antiques usages de l'Église universelle, que néanmoins, désirant se montrer jusqu'au bout plein de douceur, il demanderait à sa sainteté la convocation d'un concile, mais qu'en attendant, il devait rentrer immédiatement dans le sein de l'Église catholique et rétablir tout sur l'ancien pied. Les protestants répondirent le lendemain, 8 septembre, qu'ils n'avaient point suscité des sectes nouvelles contre la Sainte Écriture, que, bien au contraire, s'ils ne s'étaient pas mis d'accord avec leurs adversaires, c'était parce qu'ils avaient voulu demeurer fidèles à la parole de Dieu, qu'en convoquant en Allemagne un concile universel, libre et chrétien, on ne ferait que tenir ce que les diètes précédentes avaient promis, mais que rien ne saurait les obliger à rétablir dans leurs églises un ordre de choses opposé au commandement de Dieu. Il était 8 heures du soir, quand, après une longue délibération, fit entrer les protestants. Sa Majesté, leur dit Georges Truxès, s'étonne également de ce que les membres catholiques des commissions ont tant accordé, et de ce que les membres protestants ont tout refusé. Qu'est-ce que votre parti en face de Sa Majesté impériale, de Sa Sainteté papale, des électeurs, des princes, des États de l'Empire et des autres rois, magistrats et potentats de la chrétienté? Il est équitable que la minorité cède à la majorité. Voulez-vous que les voies de conciliation continuent ou persistez-vous dans votre réponse? Dites-le franchement. Car si vous persistez, l'empereur procédera aussitôt à la défense de l'Église. Demain, à 1 heure, vous apporterez votre décision finale. Jamais paroles aussi menaçantes n'étaient sorties de la bouche de Charles. Il était évident qu'on voulait dompter les protestants par la terreur. Mais ce but ne fut point atteint. Ils répondirent le surlendemain, car on leur accorda un jour de plus, que de nouveaux essais de conciliation ne serviraient qu'à fatiguer l'empereur et la diète, qu'ils demandaient donc seulement qu'on s'occupât des moyens de maintenir la paix politique jusqu'à la convocation du concile. « C'est assez, » fit répondre le redoutable empereur. « J'y réfléchirai. En attendant, que personne ne quitte Augsbourg. » Charles Quint se trouvait pris dans un labyrinthe d'où il ne savait comment sortir. L'État avait voulu se mêler de l'Église et se voyait contraint d'en venir aussitôt à sa raison dernière, le glaive. Charles ne désirait point la guerre. Et pourtant, comment l'éviter maintenant? S'il n'exécutait pas ses menaces, Sa Majesté était compromise et son autorité avilie. Il cherchait une issue, ou à droite ou à gauche, et n'en trouvait nulle part. Il ne lui restait que de fermer les yeux et de se jeter en avant, sans se soucier des conséquences. Ses pensées le troublaient, ses soucis le rongeaient. Il était hors de lui-même. Ce fut alors que l'électeur le fit prier de ne pas prendre en mauvaise part s'il quittait Augsbourg. « Qu'il attende ma réponse, » dit brusquement l'empereur. Et l'électeur, ayant répliqué qu'il enverrait ses ministres à Sa Majesté pour lui exposer ses motifs, pas tant de discours, reprit Charles irrité, que l'électeur nous dise s'il veut attendre oui ou non. Le bruit de ces altercations entre les deux puissants princes s'étant répandu, l'alarme fut universelle. On crut que la guerre allait éclater, et il y eut un grand cri dans tout Augsbourg. C'était le soir. On allait, on venait. On se précipitait dans les hôtels des princes et des députés protestants, et on leur adressait les plus vifs reproches. Sa Majesté, leur disait-on, va de recourir à des mesures énergiques. On annonçait même que les hostilités avaient commencé. On se disait à l'oreille que le commandeur de Horneck, Walther de Kronberg, élu grand maître de l'ordre teutonique par l'empereur, allait entrer en Prusse avec une armée et déposséder le duc Albert, converti par Luther. 2 soirs de suite, le même tumulte se renouvela. On criait, on discutait, on se querellait, surtout dans et devant les hôtels des princes. La guerre éclatait presque dans Augsbourg. Sur ces entrefaits, le 12 septembre, le prince électoral de Saxe, Jean-Frédéric, quitta la ville. Le même jour ou le lendemain, le chancelier de Bade, Jérôme Wehe, et Georges Truxès d'une part, le chancelier Bruck et Mélenchon de l'autre, se rencontraient à 6 heures du matin dans l'église de Saint-Maurice. Charles, malgré ses menaces, ne pouvait se décider à employer la force. Il eût pu, sans doute, d'un seul mot dit à ses bandes espagnoles et à ses lansquenets allemands, s'emparer de ces hommes inflexibles et les traiter comme les morts. Mais comment Charles, néerlandais, espagnol, absent depuis 10 années de l'Empire, s'exposerait-il à soulever toute l'Allemagne en faisant violence aux favoris du peuple? Les princes catholiques romains eux-mêmes ne verraient-ils pas dans cet acte une atteinte portée à leurs privilèges? La guerre n'était pas de saison. Le luthéranisme s'étend déjà de la mer Baltique jusqu'aux Alpes, écrivait Erasme au légat. Vous n'avez qu'une chose à faire, tolérez-le. La négociation commencée dans l'église de Saint-Maurice se continua entre le margrave de Brandebourg et Georges Truxès. Le parti romain ne cherchait plus qu'à sauver les apparences et n'hésitait pas du reste à tout sacrifier. Il demandait seulement quelques décorations de théâtre, que la messe fût célébrée avec les habits sacerdotaux, le chant, la lecture, les cérémonies et les 2 canons. Les autres questions seraient renvoyées au prochain concile, et les protestants se comporteraient jusque-là de manière à pouvoir en rendre compte à Dieu, au concile et à sa majesté. Mais, du côté des protestants, le vent avait aussi tourné. Maintenant, ils ne voulaient plus de paix avec Rome. Les écailles leur étaient enfin tombées des yeux, et ils découvraient avec effroi l'abîme où ils avaient été si près de se précipiter. Jonas, Spalatin, Mélenchon même étaient d'accord. « Nous avons jusqu'à présent obéi à ce commandement de saint Paul. Autant qu'il est possible, ayez la paix avec tous, dirent-ils. Maintenant, il nous faut obéir à ce commandement de Jésus-Christ. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il ne se trouve chez nos adversaires que ruse et perfidie, et leur unique but est d'étouffer notre doctrine, qui est pourtant la vérité même. Ils espèrent sauver les abominables articles du purgatoire, des indulgences, de la papauté, parce que nous les avons passés sous silence. Gardons-nous, pour plaire au diable et à l'antéchrist, de trahir Dieu et sa parole. » En même temps, Luther redoublait d'instance pour éloigner ses amis d'Augsbourg. « Revenez, revenez, leur criait-il, revenez, même s'il le faut, maudits du pape et de l'empereur. Vous avez confessé Jésus-Christ, offert la paix, obéi à Charles, supporté les injures, essuyé les blasphèmes. Je vous canoniserai, moi, comme des membres fidèles de Jésus-Christ. Vous avez fait assez et au-delà. Maintenant, c'est au Seigneur à agir, et il agira. Ils ont notre confession, ils ont l'Évangile, qu'ils le reçoivent, s'ils le veulent, et s'ils ne veulent pas, qu'ils périssent. S'il en advient une guerre, qu'elle advienne. Nous avons assez prié, nous avons assez discuté. Le Seigneur prépare nos adversaires comme la victime pour le sacrifice. Il va consumer leur magnificence et délivrer son peuple. Oui, il nous sauvera de Babylone même et de ses murs embrasés.